Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
La promesse de l'aube est sans doute le plus connu des romans de Romain Gary, paru en 1960. 57 ans après, c'est aussi un film, signé Éric Barbier, qui sort au cinéma mercredi prochain avec RTL. À l'affiche, nos deux invités de ce matin, Charlotte Gainsbourg et Pierre Ninet. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Nous allons longuement, j'aime bien quand c'est comme ça, nous allons longuement parler de ce film en compagnie de Stéphane Boutsock. Nous offrirons à nos auditeurs des places de cinéma pour aller voir, pour aller le voir en salle, mais également des romans. La promesse de l'aube. Enfin, Anne Le Hénaff nous proposera ses express en troisième partie d'émission. Charlotte Gainsbourg, Pierre Ninet, je l'ai dit, La promesse de l'aube est un roman culte, déjà adapté au cinéma d'ailleurs en 1970 par Jules Dassin. Est-ce qu'on a le sentiment de s'attaquer à un morceau du patrimoine culturel français quand on accepte de jouer dans le film tiré d'un livre pareil? Est-ce que c'est intimidant, Charlotte Gainsbourg?
J'ai pas été intimidée parce que malheureusement, je le regrette, mais je l'avais pas lu. C'était pas au programme à mon époque, et donc j'ai découvert le scénario en premier. Donc toutes les émotions, je les ai eues en lisant le scénario.
Ah, vous l'avez abordé avec une fraîcheur totale, en fait.
Ouais, mais je pense que ça m'a aidé.
Hein. Ouais. Pierre Ninet ?
Moi, je l'avais lu au lycée. Ça avait été un très grand coup de cœur. Je m'étais dit que c'était une vie complètement folle, complètement extraordinaire à tout point de vue. Et puis je m'étais dit que c'était très cinématographique. Et puis voilà, quand 10 ans plus tard, j'ai reçu ce scénario, je me suis dit que c'était une très bonne idée. Mais assez vite, on s'est débarrassé de la pression aussi en se disant que c'est pas un biopic, c'est, comme il le disait, une autobiographie sensationnelle. Romain Gary disait
affective.
Ça.
Affective.
Ouais, affective, mais il n'y a pas de... De toutes les façons, il y a un moment où il faut désacraliser la chose pour pouvoir s'y attaquer et jouer et avoir une forme de liberté aussi dans la façon dont on travaille, et c'était le cas.
En tout cas, c'est amusant de voir que l'un et l'autre, vous avez abordé ça de façon radicalement différente dans votre rapport au livre et à sa perception. Stéphane, pour ceux qui n'ont pas lu le roman de Romain Gary, rappelons peut-être l'histoire au cœur de cette promesse de l'aube.
C'est celle d'un amour fou, d'une mère pour son fils, Mina, et Romain, elle, l'ancienne actrice russe sans le sou, on est dans la Pologne de l'avant-seconde guerre mondiale, elle est prête à tout pour qu'il devienne un grand homme, alors elle brasse large, hein. Écrivain, ambassadeur, général, héros militaire, elle le sait, il va marquer l'histoire, et pour être fidèle à ce rêve maternel, Romain va s'acharner à réaliser cette vie extraordinaire. Extrait.
Tu dois partir, mon chéri. Demain, on ira prendre tes billets.
Attends, maman, je comprends rien à ce que tu me racontes, là. Partir où ?
À Berlin.
À Berlin ?
Il faut tuer cet Adolf Hitler. Il n'y a pas d'autre solution.
Je peux pas aller tuer Hitler comme ça.
Si tu es pris, je te garantis que la France exigera ta libération.
J'avais prêté aux événements d'Europe une oreille distraite. Et j'avais du mal à croire sérieusement à l'éventualité de la guerre. C'était la canicule. J'avais envie de rester un peu au bord de la Méditerranée, j'aurais de loin préféré aller tuer Hitler en octobre. Bref, je manquais d'entrain, mais pas question de se dérober.
De Nice à l'Afrique, en passant par Londres, Paris et le Mexique, de l'écriture aux commandes d'un avion, Romain Gary deviendra en effet un des romanciers les plus célèbres du monde. Mais alors à quel prix? Peut-être celui en fait de sa vraie vie. Comment, par exemple, trouver une femme à aimer qui soit à la hauteur d'une maman à la fois muse et vampire? Éric Barbier signe un film habité par le souffle de l'aventure, de la passion, tourbillon d'images, de sensations dans lequel vous, Charlotte et Pierre, mais aussi, il faut les citer, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin ou encore Finnegan Oldfield, trouvez votre place, et je dirais même toute votre place, celle de héros de cinéma qu'on n'est vraiment pas prêt d'oublier. Une des réussites du film, peut-être la plus importante, c'est qu'on croit que vous pouvez être mère et fils. Est-ce que ça, parce qu'il n'y a quand même pas une différence si colossale, est-ce que ça vous inquiétait, Charlotte ?
Non, mais si je pourrais être ta mère ?
Oui, mathématiquement, c'est jouable. Oui. Vous l'auriez eu très tôt.
Oui, voilà. Non, mais tout la drôlerie aussi de la préparation, c'était le vieillissement, c'était d'endosser un autre corps. Tout était... Je me suis amusée. Donc c'était... Je me suis pas demandé si ça allait pas être crédible. C'est vrai que j'avais peur d'en faire trop.
Ouais.
Il y avait une limite, même pour l'accent polonais en français, j'avais peur, je voulais que ce soit crédible. Mais c'était Eric qui était mon juge.
Je m'arrête un instant là-dessus parce que je pense que c'est en effet une des performances, excusez-moi d'en parler en ces termes. L'accent, c'est toujours infernal au cinéma et c'est très souvent caricatural.
Et il ne voulait pas. Eric, au départ, m'a dit qu'il voulait que je parle un polonais parfait.
Oui.
Donc ça, c'était un enjeu majeur. Mais il ne croyait pas que j'allais m'en tirer avec un accent en parlant français. Il trouvait ça ridicule, que le public français me connaissait avec mon accent parisien.
Bien
et
sûr.
Voilà. Et moi, j'étais convaincue parce que j'ai eu une grand-mère russe et elle avait un accent à couper au couteau. C'était impossible de venir...
Donc vous aviez la musique dans l'oreille, c'est ça ?
Oui. Alors après, j'ai eu la chance d'avoir une actrice polonaise, une jeune actrice, Isabella, qui m'a suivi tout le tournage. Et
comme
je
un
lui...
coach, quoi.
Ouais. Mais alors d'abord pour le polonais, mais je lui ai demandé de me lire tout le texte. Ce qui fait que même pour le français, j'avais sa musique à elle.
Pierre, que Charlotte soit votre maman.
Moi, j'étais très fier. J'avais très envie de jouer avec Charlotte. Donc, on m'a proposé n'importe quel lien de famille. Je pense que j'aurais accepté le film. Mais non, en fait, il y a aussi quelque chose de particulier et que je trouve très émouvant dans le film. C'est que moi, j'avais le début du film se passe avec un petit garçon. Et ça raconte toute la violence aussi des attentes de cette mère sur un petit garçon de 10 ans, 9 ans, qui parfois la regarde et elle lui dit tu vas me défendre, tu vas te faire tuer à l'occasion s'il le faut. Il y a toute une partie enfance qui est extrêmement forte. Parce qu'il y a un amour absolu entre les deux et en même temps il y a une violence dans les attentes de cette mère. Mais du coup moi j'avais cette piste de décollage d'une certaine manière avec Pavel qui joue Romain Gary enfant. Donc je trouve que et ensuite Nemo Schiffman qui le joue adolescent et ensuite j'arrive. Donc il y avait je trouve que ça se fait assez naturellement et c'est aussi quelque chose qu'Éric Barbier le réalisateur a réussi je trouve, c'est à amener la chose doucement et du coup on a eu des gens qui nous disaient Charlotte Gainsbourg, la mère et Pierre le fils et puis ils voient le film et généralement ça éclipse absolument toute question et tout doute.
Pierre le fils, moi j'ai pas eu de mais la mère.
Non mais c'est ce lien-là en tout cas.
Alors Stéphane l'évoquait il y a quelques instants, La promesse de l'aube est un film ambitieux dans son écriture mais aussi visuellement, tourné pendant plus de 3 mois dans 5 pays. J'ai le sentiment que c'est le genre de projet que l'on croise rarement quand on est comédien. Est-ce que je me trompe et est-ce que vous êtes tous les deux nostalgiques de cette époque où le cinéma français se risquait dans des grands films d'aventure et là vous vous êtes embarqué dans un projet romanesque dans tous les sens du terme.
Moi je suis pas nostalgique parce que malheureusement, enfin je suis heureuse d'en avoir eu un aujourd'hui mais j'en ai pas eu beaucoup des rôles de et ça fait longtemps que je fais du cinéma donc j'ai pas eu de cette ampleur. J'ai peur pour la suite parce que
vous y avez goûté.
Ouais, c'était un rôle magique, vraiment magique. Donc j'ai peur de pas retrouver un rôle de cet auteur.
Pierre Ninet.
Quand j'ai reçu le scénario, c'est vrai que c'était plus une nostalgie peut-être de spectateur, de me dire c'est bien que des films ambitieux, épiques, spectaculaires, avec du souffle, avec cette volonté de faire quelque chose du grand cinéma. Je voudrais pas que ça disparaisse. Moi, je pensais à que j'ai vu quand j'étais jeune à Cyrano de Rapneau avec Depardieu, qui est pour moi un film magnifique parce qu'il y a cette ambition littéraire et en même temps, comme chez Romain Gary, l'intelligence de certains très grands artistes, c'est-à-dire quelque chose qui est de la grande littérature, intelligent, poétique et en même temps très populaire, très généreux, très accessible c'était génial sur le projet. C'est quelque chose qu'on voulait vraiment garder et je trouve qu'Éric Barbier a été fort là-dessus, c'est que le film il a une émotion très, très accessible.
Le film repose sur vous deux, évidemment, une fois que Pierre, en effet, vous arrivez en tant que Romain, jeune adulte. Vous vous connaissiez avant? Est-ce qu'il faut s'apprivoiser sur un tournage comme ça, où il y a quand même des choses très intimes qui sont dites et montrées?
Moi, il a fallu que je me l'apprivoise comme fils, mais c'est vrai parce que j'ai eu un petit garçon donc pendant quelques semaines avant où effectivement il y a eu une fusion. C'est facile avec un petit d'être tactile, de se l'approprier comme j'ai eu un fils donc c'est les souvenirs étaient plutôt proches. J'ai eu d'un seul coup du jour au lendemain un jeune adulte, un bel homme, et il a fallu que j'ose être tactile aussi avec lui. C'était pas évident, c'est vrai.
Donc il fallait dépasser une certaine pudeur.
Oui, une timidité. J'étais impressionnée aussi. Les premiers jours sont pas évidents comme ça. On n'a pas forcément répété, mais après c'est venu quand même très très vite. Les scènes sont là. C'était un plaisir de jeu ensemble. Après c'est facile.
Alors nous vous offrons ce matin des places, vous qui nous écoutez, pour aller voir La Promesse de l'Aube au cinéma à partir donc du 20 décembre avec RTL, mais aussi des romans de Romain Gary pour, dans une édition de luxe illustrée par Johann Sfar chez Futuropolis Gallimard, c'est très très beau, et dans l'édition de poche avec l'affiche du film chez Folio. Pour gagner, il faut répondre à la question que vous pose Stéphane.
En quelle année est sorti le livre de Romain Gary? Était-ce 1950 ou 1960?
Réponse au 32-10. On marque une petite pause et dans un instant on retrouve nos deux invités ce matin, Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg. A tout de suite, merci d'écouter RTL.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Charlotte Gainsbourg et Pierre Ninet sont donc nos invités jusqu'à 9h30 avant la sortie mercredi au cinéma avec RTL du film La Promesse de l'Aube, réalisé par Éric Barbier. Le film, comme le roman de Romain Gary évidemment, parle du poids que font parfois peser les parents sur leurs enfants en attendant d'eux qu'ils se surpassent ou qu'ils réussissent. Charlotte Gainsbourg, vous êtes la fille de Jane Birkin, Serge Gainsbourg. À quel moment avez-vous souhaité être une artiste, vous aussi, et est-ce que vos parents vous y ont encouragé?
Non, ils n'ont pas du tout... Oui, ils m'ont encouragé, mais de manière beaucoup plus subtile que Nina.
Bon, alors là, vous nous rassurez.
Non, mais ils m'ont poussé sur la voie. Oui, aujourd'hui, je réalise que c'est grâce à eux, évidemment. Ma mère m'a très gentiment mis un petit mot sur la table de la cuisine avec un rendez-vous si je voulais aller à un casting pour Paroles et Musique. Donc j'avais 12 ans et je sais plus ce que j'avais en tête, mais je suis allée à ce rendez-vous. Mais donc voilà, je sais que mon père aussi voulait me faire chanter Lemon Incest la même année.
Oui.
Et ma mère trouvait ça bien. Et elle avait été conseillée, je sais, par Catherine Deneuve. Elle trouvait ça bien que j'ai mon chemin seul aussi. Que je sois avec mon père en musique, oui, mais que je puisse faire mes preuves aussi toute seule.
Ce que vous décrivez là est assez harmonieux. C'est-à-dire que je ne sens pas, en effet, la pression qui est l'objet du film, là.
Exactement.
C'est comme ça que ça s'est passé chez
oui,
vous.
Oui, j'ai jamais eu de pression. Ça paraissait naturel, en fait. Et voilà, j'aurais pu faire un autre métier, mais la question ne se posait pas, en fait. C'était évident.
C'est à vous, cher ami.
Non, non, mais vous, Pierre, vous êtes également pas dans un milieu totalement artistique. Votre papa est prof de cinéma, si je ne m'abuse. La vocation, ça remonte à quand? Est-ce que c'est une rencontre ou est-ce que là aussi, c'est quelque chose dont on parlait à la maison?
En fait, c'était à moi. Je présenter des excuses officielles.
Okay, oui, c'est bien de le faire officiellement. Parce que, ouais. Moi, ça s'est fait... j'ai grandi dans un univers effectivement assez créatif. Ouais.
Culturel,
ouais, complètement. Donc, mon père était professeur de cinéma documentaire, mais quand même un grand fan de cinéma. Donc, il y avait beaucoup de films à la maison, on va dire. J'ai eu cette chance-là. Mais après, ça a vraiment... Je me suis toujours senti libre. On m'a jamais dit « va à un cours de théâtre ». On m'a jamais même demandé quoi que ce soit. En fait, on m'a toujours laissé la liberté. On m'a fait comprendre que le but, c'était d'être heureux. Donc, si je devais reproduire une méthode, ce serait plutôt celle-là que celle de la mère de Romain Gary. Mais en même temps, ce serait moins cinématographique, hein, tout de suite. C'est parce que c'est des personnages tellement extrêmes. Et ce que fait Charlotte, je trouve ça sidérant. Moi, j'étais déjà un grand fan de Charlotte, mais je trouve qu'il y a une surprise en plus à la clé dans ce film-là sur la composition du personnage qu'elle fait, de cette mère juive complètement excessive et puis drôle, parce qu'elle est dans un premier degré constant qui contraste avec la voix de Romain Gary qu'on a repris pour la voix off. On reprend des vrais morceaux du livre qu'on adore. Et où lui, il y a toujours quand même un petit décalage, où on sent qu'il a un recul sur cette situation quand il la raconte. Et sa mère, par contre, elle avance, quoi. C'est un train, quoi. Et il faut que ça avance. Et y a beaucoup d'humour dans le film. Il y a beaucoup de scènes où on s'est beaucoup amusé. On voulait vraiment garder cet humour de Romain Gary qui est très important.
Alors, vous parliez de la voix de Romain Gary. Je vais vous faire écouter un document retrouvé dans les archives RTL par Chantal Gramin. On est en novembre 1980. Romain Gary est l'invité de RTL. Il revient justement sur sa relation avec sa mère et sur ce que montre aussi le film, ces dizaines de lettres qu'elle a continué à lui faire parvenir durant la guerre pour lui donner du courage alors qu'elle-même avait quitté ce monde. Écoutez.
Elle savait qu'elle allait mourir. Elle avait écrit un nombre considérable de lettres qu'elle faisait expédier par la Suisse vers l'Angleterre où je me battais dans l'aviation de la France libre.
Et vous ne saviez pas qu'elle était morte alors que vous...
Et donc moi je recevais les lettres, je croyais qu'elle était vivante et c'est seulement en rentrant à Nice que j'ai appris qu'elle était morte depuis 3 ans. Mais vous savez, les lecteurs sont des gens étranges. Il m'est arrivé l'autre jour de rencontrer une dame qui m'a dit « La promesse de l'aube, l'image de votre mère est ce que m'a le plus bouleversé dans ma vie ». Vraiment, c'est un livre merveilleux. Est-ce que votre maman vit toujours?
Alors, pendant qu'on écoutait le document, Pierre et Charlotte, il y a un doute, donc, quand même, parce que c'est Romain Gary.
Pierre Nina, visiblement, des informations.
Oui, des informations. Non, mais c'est vrai que Romain Gary, c'est des poupées russes, quoi. Dès qu'on pense à retrouver quelque chose, il y a toujours autre chose à l'intérieur. Oui. C'est ça qui est fascinant.
Et encore une fois... Manipule.
Oui, il ment et
en même, la vérité,
il réinvente. Il réinvente beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est pas un biopic et que c'est plus fascinant que ça parce que ça raconte Gary. Gary, c'est à la fois Indiana Jones, mais c'est aussi le personnage de Catch Me If You Can qui s'invente des identités tout le temps. Il y a vraiment cette idée chez Gary qu'il est assez insaisissable et en même temps, il nous parle énormément parce que il y a ce côté universel dans ce qu'il raconte. Mais là, effectivement, il y a le doute sur ce qu'il raconte à ce moment-là dans cette interview. C'est l'année de son suicide en plus. Mais il décide de laisser derrière lui encore des doutes puisque ces lettres-là, il y a des gros doutes sur le fait que sa mère ait réellement fait ça. Apparemment, c'est peut-être lui qui aurait fait ça dans sa vie à quelqu'un et il l'a réutilisé.
Ah, moi, je croyais que c'était à elle qui l'avait...
Voilà, vous voyez, bienvenue dans la vie de Romain Gary, qui n'est fait que de doutes.
Elle ne pouvait pas donner une photo plus parlante de ce qu'est cet homme et de ce qu'il a organisé autour de lui, au sein même, en plus de son œuvre littéraire, qui est une œuvre romancée, par la vie.
On continue à parler des parents, tiens. Charlotte, vous êtes maman de 3 enfants. Mm-hmm. Pierre, il me semble que c'est imminent, c'est quelque part par là. Mm-hmm. Quel rêve avez-vous, vous, pour vos petits? Si un jour, tiens, on va inverser le souci, ils viennent vous voir, peut-être ça a été fait, Charlotte, vous allez nous dire, et qui vous dites, moi je veux être acteur, ça sera quoi la réponse du coup? Ou je veux être artiste?
De les encourager, évidemment, d'avoir la trouille, parce que c'est pas forcément, c'est un métier magique, mais il y a des creux, forcément, et donc on leur souhaite pas. Moi ça me fout la trouille, mais en même temps j'adorerais ça. Donc je comprends mes parents qui marchaient un peu sur des œufs, mais on sent qu'on a des enfants qui vont peut-être faire ça.
C'est difficile de se sentir légitime quand on a un papa qui s'appelle Serge Gainsbourg et une maman qui s'appelle Jane Birkin.
Moi, encore aujourd'hui, je ne me sens pas actrice professionnelle ni chanteuse professionnelle. Enfin, j'ai un plaisir énorme à le faire, mais à revendiquer que c'est quelque chose pour lequel j'ai trimé. Non, j'ai pas eu une vocation à 12 ans. C'était facile d'accepter des films l'été, de retourner à l'école pendant l'année. C'était des vacances, j'allais en colo.
Donc la question de la légitimité, elle est bien posée. On va marquer une nouvelle pause dans cette émission. Dans un instant, on va retrouver aussi Anne Le Hennaff qui nous livrera les toutes dernières infos culture. A tout de suite, Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg sont les invités de Laissez-vous tenter. Nous sommes ravis de les accueillir.
RTL Matin. Laissez-vous tenter. Les Express LVT.
En compagnie de Charlotte Gainsbourg et de Pierre Ninet, nos Express qui nous sont proposés aujourd'hui par ma cadre. Oula, je vais y arriver. Par ma camarade.
J'ai eu peur que ce soit méchant.
Anne Le Hennaff, excusez-moi. Et on commence avec Charles Aznavour qui, à 93 ans, a vécu une nouvelle première hier soir.
Mais oui, il a chanté dans le monde entier, mais jamais il ne s'était produit à Paris-Bercy. Eh bien, c'est chose faite. Le patriarche de la chanson a donné hier un récital d'1h50. Il a notamment entonné ceci.
La bohème, ça voulait dire, on a 20 ans. La bohème, il en vivait de l'air du temps.
On s'en lasse pas, Aznavour, qui lancera sa tournée le 20 janvier prochain. Il se produira à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes et à Lille. Aznavour, il avait écrit « Retiens la nuit » pour Johnny Hallyday. Eh bien, le Conseil de Paris a décidé hier qu'un lieu de la capitale serait rebaptisé Johnny Hallyday. La droite parisienne propose un lieu de recueillement dans le square de la Trinité, dans le 9e arrondissement, là où Johnny a grandi. Les communistes, eux, aimeraient bien rebaptiser l'Accor Arena, salle Bercy Johnny Hallyday. Le site sera choisi en accord avec la famille, précise l'exécutif.
Dans les deux cas, sont de bonnes idées. Un anniversaire aujourd'hui, celui du film Titanic.
20 ans déjà, le film est sorti le 14 décembre 1997. C'est le deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma après Avatar, du même James Cameron. Stéphane Boutsock a rencontré Kate Winslet, inoubliable Rose, qui est en promo pour le prochain Woody Allen. Elle a bien voulu évoquer avec lui cet anniversaire forcément très spécial.
Well, it's pretty funny, you know, 20 years ago.
C'est marrant parce que c'était il y a 20 ans. Il y a des choses qui me semblent remonter à hier et d'autres dont je ne me souviens plus du tout. Ça me permet de constater combien j'ai vieilli puisque je commence à oublier ce que j'ai vécu. Mais bon, vous savez, j'ai 3 enfants et vous perdez vos cellules grises quand vous avez des gamins.
Cela dit, Titanic tient une place immense dans ma vie. D'abord, je suis heureuse d'avoir pu nouer une véritable amitié avec Leonardo, en vivant cela avec lui. Et puis en termes de carrière, ça a été un tournant majeur, car ça m'a donné la liberté de choisir de travailler ou pas, et de passer du temps en famille. C'est une chose qui est donnée à peu d'actrices dans le monde.
On perd ses cellules grises quand on a trois enfants, quand on est une actrice, une femme. Je suis
Charles au courant.
Complètement.
Confirmation. Très bien. On va consulter
alors, maintenant. Alors, je fais juste une petite... parce qu'en fait, le 14 décembre,
Mais oui.
C'est aussi un autre anniversaire.
Bah, bien sûr.
Ex-femme de 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock'n'roll.
On n'allait pas rater ça.
Ah ouais. Mais on ne dit pas son âge parce que c'est totalement incompatible.
On va consulter comme chaque semaine le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express.
Et un doublé pour les Goncourt en tête du classement des romans. Le prix Goncourt, L'ordre du jour d'Éric Vuillard est numéro 1. Le Goncourt des lycéens, L'art de perdre d'Ali Zeniter numéro 2.
Formidable.
La disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guez, prix Renaudot, se classe 3e. Du côté des essais et documents, le nouveau livre du philosophe Frédéric Lenoir, Le miracle Spinoza, accède à la première place devant Servir du général Pierre de Villiers et La vie secrète des arbres de Peter Vollenbøen.
Ce palmarès complet à retrouver dans les colonnes de l'Express et il clôt ce rendez-vous avec l'actualité culturelle. Vous avez un petit commentaire à nous faire? Non, tout va bien sur ce que vous avez entendu?
Non, moi j'ai ma mère en tête.
Ah bah moi ça me semble très bien que vous ayez votre mère en tête.
Joyeux anniversaire en direct. C'est rare.
Eh ben, on se joint à vos vœux, évidemment, et on se retrouve dans quelques instants avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Ninet pour se dire au revoir. Et puis on va vous distribuer des cadeaux, vous le savez. Allez, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous offrons ce matin des places pour aller voir La Promesse de l'Aube au cinéma à partir du 20 décembre, bien entendu avec RTL, mais aussi des romans de Romain Gary, notamment dans une édition de luxe illustrée par Johann Sfar chez Futuropolis Gallimard et dans l'édition de poche avec l'affiche du film chez Folio. La question était en quelle année est sorti le livre de Romain Gary, 1950 ou 1960?
Pierre, 1960.
Voilà. Eh bien écoutez, vous avez gagné des cadeaux. Merci, merci à tous les deux d'être venus nous voir ce
merci
matin.
Beaucoup.
Et on précise que Charlotte et Pierre seront demain à 11h les invités de Stéphane Bern dans À la bonne heure sur RTL.
Allez voir La Promesse de l'Aube au cinéma, c'est un très beau film. Merci à tous les deux, bonne journée.
Merci beaucoup.
Et nous sommes ravis d'accueillir maintenant Julien Courbet pour son émission. Bonjour Julien.
Bonjour mon Yves, comment allez-vous? Allô?
Pardon?
Oui, je dis bonjour mon Yves, comment allez-vous? Je n'avais pas l'impression de vous insulter. Mais... vous me dites pardon, qu'est-ce que c'est?
Je l'ai très mal pris.
Je ne sais plus quoi vous dire maintenant. Je vous avoue que je ne dors plus maintenant depuis 6 mois. Je suis d'ailleurs en psychothérapie et je fais un travail parce que j'explique à mon psy, je ne sais plus comment lui parler. Quand je lui dis gentiment bonjour Yves, comment allez-vous? Il me dit pardon? Donc je ne sais plus.
Non mais si, normalement, j'avais une phrase de texte qui était mais dites-moi, il vous reste encore 6 spectacles à la Comédie des Boulevards. Parce que je n'avais pas bien répété mon texte.
Oui. Bon, écoutez, si vous en êtes à répéter des choses comme ça, oui, c'est très gentil de le préciser, il ne reste plus que 6 soirées, dont la première démarre ce soir, et après, ça sera fini Paris pendant près d'un an.
Oh, bah, moi, je suis à fond pour vous faire de la pub, ah, vous savez, alors là-dessus.
Pardon ? Attention, parce que je peux le faire aussi, moi. Attention. C'était une très belle émission.
J'étais peut-être un peu mal aimable. Je vous présente mes excuses.
Journée,
bonne émission.
Je vous ai pardonné.
Vous écoutez RTL.